France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Notre invité ce soir aime les convergences entre ses études sur l'exil, l'immigration et l'histoire de l'art, l'art en train de se faire, l'art en train d'être représenté. Selon lui, l'infrapensée raciste est plus que jamais présente, comme l'illustre notamment la montée des extrêmes droites partout dans le monde et la montée en puissance des discours racistes et décomplexés. Mais qu'est-ce que fondamentalement le racisme? Quelle pensée nous sous-tend et lui permet de s'étendre? Et comment l'art, certaines performances artistiques notamment, peuvent participer à le conjurer? Pour en parler ce soir, Michel Agier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ethnologue et anthropologue, vous êtes directeur de recherche émérite à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, ainsi qu'à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous êtes spécialiste de l'immigration et de l'exil, et le titre de votre nouvel essai qui paraît aux éditions du Seuil, il s'intitule « Racisme et culture, exploration transnationale ». Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du Soir.
La première chose que je veux faire, sans aucun doute, c'est de demander et de présenter mes sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées par la manière dont je me suis exprimée dans le passé, le présent ou à l'avenir. On m'a accusé de racisme, c'est quelque chose que je voulais mettre au clair. Je ne suis pas raciste. Je pense qu'on m'a jugé, condamné, sacrifié, crucifié et lapidé sans passer par la justice et sans possibilité de me défendre. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait ces derniers jours.
La voix de Carla Sofia Gascón, hein, l'espagnole qui fait partie du film du dernier film de Jacques Audiard, qui était favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice. Elle avait qualifié il y a plusieurs années sur Twitter que l'islam était un foyer d'infection pour l'humanité. On pourrait se dire, Michel Agier, qu'aujourd'hui c'est plus compliqué qu'autrefois d'être raciste, que lorsque le racisme surgit, il est condamné et que les racistes, ou en tout cas celles et ceux qualifiés comme tels, doivent s'excuser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée?
On enchaîne très vite des polémiques sur des sujets qui sont très importants. C'est-à-dire que là, le débat ou la controverse qui pourrait avoir lieu, cède la place, à cause notamment des réseaux sociaux, à cause des chaînes d'infos continues qui cherchent le scandale, qui cherchent l'agression, etc. C'est un peu des empêcheurs de penser. Parce qu'il faut prendre un peu le temps de la réflexion, et la controverse a besoin du temps de la réflexion. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit finalement de catégories de la population qui ont été historiquement rabaissées, à une certaine époque, à l'état de sous-humain pratiquement, et puis progressivement à l'état d'humain pouvant être esclavagisé, pouvant être colonisé, pouvant être dominé d'une manière ou d'une autre. Et puis, le monde évolue, le monde se mélange, nos vies deviennent de plus en plus cosmopolites, diverses, et donc on entend des voix maintenant, on peut entendre des voix qui protestent contre cette réalité-là, et donc qui protestent même à la première occasion, et en utilisant les mêmes réseaux finalement que ceux qui relancent cette infrapensée raciste dont je parle aussi. Et donc il y a conflit. Et ce conflit, il existe, ça n'est pas mal qu'il y ait un conflit. Mais c'est intéressant à partir du moment où on en fait une controverse. Si on en fait des polémiques et des accusations du genre « vous n'avez pas le droit de parler » ou du genre « taisez-vous » comme ça a été dit et comme c'est souvent dit, eh bien, à ces personnes racisées qui ont voulu ou qui veulent encore prendre la parole, eh bien, dans ce cas, on est dans l'impossibilité d'avoir ces débats et ces controverses.
C'est intéressant ce que vous dites. La polémique que l'on vient d'entendre, elle a suscité beaucoup d'indignation, mais très peu de pensée à vous entendre. Pourquoi la pensée est-elle si importante dans ce cas du racisme, justement, et sa dimension infra, hein, ça veut dire qu'elle est un peu partout, mais qu'on ne la perçoit pas. Pourquoi la pensée pourrait permettre justement de faire surgir la problématique raciste?
Ben, parce que précisément, elle met en évidence ce phénomène. Là encore, je pense que les réseaux sociaux diluent, accentuent cette dilution de cette infra-pensée raciste dans toute la société. Et donc, on peut avoir, comme cette actrice, à un moment donné, comme les autres, sur son réseau social, seule devant son ordinateur ou son smartphone, elle lance une provocation. Et donc ça, c'est comme ça que ça se diffuse. Mais qu'il y ait un débat sur cette question, moi, ça me paraît nécessaire. Et pour précisément, eh bien, là, on parle de quelqu'un qui vit en Espagne. Ben, l'Espagne, comme la France, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme la Hollande, comme la plupart des pays d'Europe, ont été des pays colonisateurs et impériaux. Et notre rapport aux autres, notre rapport à cette altérité racisée, eh bien, hérite encore de ce passé qui arrive jusqu'au présent sans qu'on l'ait réellement déconstruit, critiqué et qui est encore actif, et on le voit bien avec les relances aujourd'hui de ce racisme de plus en plus explicite.
Alors je voudrais que l'on commence, Michel Agy, avec le début de votre ouvrage, hein, ce que l'art nous permet de percevoir et ce qu'il nous empêche de voir. Vous projetez le lecteur dans l'académie de Florence face à la statue de David, hein, de Michel-Ange qu'il a sculpté en 1504. Pourquoi partir de là? Pourquoi partir de cette statue et de ce qu'elle nous empêche de voir plus encore d'ailleurs?
Eh bien, parce que ce David qui fait 5 mètres de haut, il est imposant et il impose au monde qui vient le voir et qui vient le photographier et qui vient faire des selfies avec le David, il impose l'image d'une masculinité blanche, forte, dominante. Et j'évoque que sur le bord du couloir qui mène à ce David, il y a 4 autres statues qui, pour moi, évoquent ce que peut faire l'art avec la création, c'est-à-dire 4 statues qui sont appelées captifs, prisonniers ou esclaves, selon les...
4 figures d'esclaves.
4 figures d'esclaves que Michel-Ange a taillé plutôt vers la fin de sa vie, où il voulait défendre un principe esthétique qui est le non finito. Et donc le non finito, pour moi, c'est très important parce que ça représente d'une certaine façon l'attention que j'ai sur les performances culturelles dont je parle dans l'ouvrage, c'est-à-dire regarder la culture en train de se faire quand elle n'est pas achevée, voire quand elle n'est jamais achevée. Une statue qui est terminée, eh bien c'est un objet qui est là et qu'on admire ou qu'on n'admire pas, dont on est simplement spectateur. L'art en train de se faire, c'est une performance, c'est une action où on veut dire quelque chose, où quelqu'un veut dire quelque chose à travers une expression artistique. Alors, je parle souvent des danses, des chansons, des poèmes, voire des carnavals.
Des carnavals, on y reviendra.
Et,
oui.
Et ça crée une relation. Et c'est cette relation-là qui est toujours, qui va changer. Le lendemain, elle sera différente. Et le surlendemain, elle sera différente. Mais c'est toujours cet art vivant, si on peut dire. Et donc, cette culture en train de se fabriquer dans la relation entre quelqu'un qui joue la performance et un public qui est là tout proche et qui, d'une certaine façon, participe à la situation de la performance.
Pourquoi avoir nommé votre ouvrage « Racisme et culture » ? On voit bien la référence à Lévi-Strauss, hein, qui avait donné cette grande conférence intitulée « Race et culture ». Mais pourquoi transformer ce terme-là de race à racisme ?
Eh bien, j'ai voulu faire partir ma réflexion de Lévi-Strauss, parce que voilà, comme tous les anthropologues, je lis d'abord...
La filiation est claire.
Là, je lis d'abord Lévi-Strauss, et j'ai trouvé intéressant, il y a 2 ouvrages de Lévi-Strauss, Race et Histoire en 1952, Race et Culture en 1971, qui sont toutes les deux des réponses à des demandes de l'UNESCO sur que peut la science face au racisme, ou les races existent-elles. Et d'une certaine façon, il m'a semblé que Lévi-Strauss pétrée dans une discussion vue d'aujourd'hui, on voit qu'elle est terminée, mais à ce moment-là, elle n'était pas complètement terminée, de savoir est-ce que les races existent. Et pour ce texte-là, c'était est-ce que les races déterminent la culture. On voit bien la formulation, enfin le sens quoi, de la formulation. Et Lévi-Strauss essaye de dire que non, en fait... ce sont les modes de vie, les cultures au sens large, qui déterminent les différences biologiques. Simplement, il fait une confusion, il croit encore, c'est pour dire, à la définition biologique de la race. Or, à ce moment-là, les biologistes, les généticiens, les archéologues qui ont des traces du passé expliquent que non, pour les populations humaines, les classifications raciales n'ont pas de sens. La race n'est pas un concept pour les populations humaines. Et donc, les biologistes eux-mêmes ont dit, ben, c'est à la philosophie et aux sciences humaines de s'en occuper. Et à ce moment-là, on a une sociologue, Colette Guillaumin, qui en 72, donc au même moment pratiquement que Lévi-Strauss écrit son Race et culture, elle écrit un ouvrage vraiment fondamental sur l'idéologie raciste, et où elle explique que non, effectivement, les races n'existent pas sur le plan biologique. En revanche, elles sont une construction sociale, elles sont un mode de naturalisation de la domination.
Je voudrais vous faire entendre Sarah Mazouz, hein, elle est sociologue chargée de recherche au CNRS, elle s'exprimait sur Mediapart le 9 février 2021. Ses propos résonnent très vivement avec les vôtres.
On est dans un contexte qui est justement aveugle à la race, qui part du principe que quand on parle de race, on est raciste, et qu'on est donc dans un contexte où il est très compliqué de distinguer les travaux qui essayent de pointer les logiques de production des hiérarchies raciales, et qui donc le font à des fins de dénonciation et de critique, et les discours qui adhèrent à une vision raciste des rapports sociaux. Je ne parle pas de race comme réalité biologique, races, mais je parle de la race comme un rapport de pouvoir qui est produit comme les d'autres logiques de hiérarchisation qui structurent et font que les sociétés sont des sociétés, au même titre que la classe, que le genre, ou que l'âge, ou encore le handicap. Tout ça, c'est des modes de production de hiérarchie entre des groupes sociaux qui permettent de placer des gens en position de domination et d'autres en position de dominer. Et ce à quoi servent les travaux sur la race, c'est de montrer comment, dans un temps précis, dans une époque précise, dans un contexte sociopolitique précis, on en vient à créer des catégories de personnes à qui bénéficie le rapport de pouvoir racial et des catégories à qui en pâtissent.
La race n'existe pas, Michel Agier, au sens biologique du terme, et pourtant la race structure la perception du corps social. Expliquez-nous comment.
Eh bien, les races biologiques n'ont pas de sens au point de vue de la classification de la population humaine. Mais effectivement, on a vu à partir du 19e siècle, de ce point de vue-là, c'est un bon repère. Le pouvoir européen sur le monde, et notamment à travers l'esclavage, et les découvertes et l'esclavage, le regard européen, à ce moment-là, s'est transformé pour, d'une certaine façon, remplacer la domination esclavagiste par une domination raciale. Et donc, ça a installé cette idée. Et c'est l'idée, c'est pour ça que je dis dans cet ouvrage que cette question concerne les Blancs, si on peut dire en priorité, ou les descendants de ceux qui ont inventé cette fiction.
Il y a une responsabilité des personnes blanches, vous dites.
Mais bien sûr, bien plus que de tous les autres. C'est-à-dire que, nous descendons en Europe, le monde occidental, dans sa domination sur le reste du monde, descend de ces inventions qui ont été faites. Alors, le nom de Gobineau, Arthur de Gobineau, est régulièrement répété, mais ça n'est pas le seul. Et surtout, ce ne sont pas des théories, ce sont des inventions, des purs fantasmes qui ont été créés pour remplacer le principe de la domination militaire, économique, politique européenne sur le monde par une domination des Blancs sur les autres races supposées inférieures. Et on le voit, ça a été aussi le passage à la colonisation, et les colonies ont été créées sur ce modèle-là, et je dois dire que la pensée raciale s'est fortement structurée aussi dans les formes de la domination économique, politique de la colonie, des différentes colonisations. Et donc nous sommes avec ça aujourd'hui, qui forment des langages, des a priori, des idées, qu'on le veuille ou non, qui sont là, et comme des préjugés. Voilà, autre terme qu'on peut aussi, avec lequel on peut aussi repérer cette pensée ou cette infra-pensée raciste, des formes de discrimination qui semblent autre chose que raciale, par exemple, on va dire, c'est social, c'est urbain. Or, on constate que les périphéries urbaines les plus pauvres, les plus paupérisées, sont en très grande majorité habitées par des personnes qui viennent des pays anciennement colonisés, donc des personnes qui sont racisées ou dont les ancêtres ont déjà été racisés et eux-mêmes le sont encore. Donc cette dimension, et ça se reproduit dans le fait, ne serait-ce que dans le fait qu'il n'y a rien n'est fait pour rectifier cette forme de domination.
Est-ce que le tabou français, est-ce que le tabou plutôt au sujet du racisme est encore plus fort en France qu'ailleurs? Parce que l'universalisme français, parce que la République aurait tendance à invisibiliser ces questions liées à la couleur de peau et au racisme, ne serait-ce qu'à travers la dimension ethnique des politiques publiques qui est totalement absente en France plus qu'ailleurs?
Oui, je pense que c'est peut-être plus présent dans la pensée républicaine française, parce qu'on associe la République à la nation et la nation française à l'universalisme. Et là, je pense qu'on a un écueil qui consiste à vouloir absolument et a priori supposer que les autres ne sont pas universalistes. Moi, mon expérience d'ethnologue à travers le monde, que ce soit en Afrique, je parle du Cameroun en particulier, ou que ce soit en Amérique latine, ou toutes les populations migrantes, comme on dit en général, eh bien, ont toutes une projection universaliste. On veut parler pour le monde. On ne parle pas que pour soi. Quand on devient une minorité dans un contexte, eh bien, on veut faire entendre cette voix-là. Mais rien ne dit que cette voix-là n'est pas universaliste. C'est pour ça que je défends dans ce travail l'universalisme, oui, mais pour tous. Et c'est ça un peu le challenge. Aller au bout de cette de ce désir d'universalité, eh bien c'est décider à un moment donné que cette universalité suppose l'égalité entre tous.
Les auditeurs ne le savent pas nécessairement, Michel Agier, mais vous êtes blanc vous-même. Est-ce que justement la couleur de votre peau pose aujourd'hui des problèmes de légitimité dans votre travail, dans le champ universitaire, pour aborder justement ces questions de racisme et de domination?
Ça pose une différence épistémologique, c'est certain, et je le développe dès le début du livre. Quand on est blanc, il y a une chose fondamentalement qu'on ne connaît pas, c'est le racisme. Et donc, on peut toujours dire que le racisme n'existe pas. Or, la deuxième étape, si je peux dire, de ma réponse à votre question, c'est que l'anthropologie sert à ça. C'est-à-dire, elle sert autant que possible à sortir de sa condition pour entrer en relation avec les autres, quel qu'il soit. Et donc, à ce moment-là, effectivement, je ne peux pas me contenter de dire « je suis un anthropologue universaliste » parce que le projet de l'anthropologie est l'humanisme et l'universalisme. Je suis obligé de dire à ce moment-là et de reconnaître que dans toutes ces relations, je suis d'abord vu comme un blanc, je suis d'abord vu comme un homme blanc, et cela détermine la relation, même si j'aurais bien aimé que ça ne soit pas le cas. Beaucoup de gens veulent tellement que le racisme n'existe pas, qu'ils prétendent qu'il ne faut absolument pas en parler et qu'il ne faut absolument pas que d'autres en parlent. Et s'ils en parlent, c'est qu'ils sont particularistes, communautaristes, identitaires ou je ne sais quoi. Non, ils parlent de leur réalité à eux. Donc moi, je suis parti de ma réalité et tout au long de l'ouvrage, je raconte ces histoires aussi au Brésil, comme lorsque je conduis en voiture un leader noir du quartier Liberdad de Bahia, je m'arrête un moment pour attendre qu'il aille à cette réunion et nous allons continuer, ce qui est pour moi le moyen d'avoir des longues conversations avec lui. Les gens me regardent et ils disent, alors, un chauffeur blanc d'un leader noir, c'est bizarre, ça devrait être l'inverse. Et voilà, cette inversion, j'aime bien la voir parce que justement, elle provoque quelque chose, elle provoque l'étonnement et c'est un étonnement qu'il faudrait avoir partout dans la vie quotidienne, en France, comme au Brésil, comme ailleurs en Afrique.
Je suis certain que beaucoup d'auditrices, d'auditeurs ont dû tiquer lorsque vous avez dit que les Blancs ne connaissaient pas le racisme. Il y a pourtant une expression qu'on voit pulluler dans la presse et un peu partout d'ailleurs dans le corps social, c'est l'expression de racisme anti-blanc. Pourquoi cette expression, selon vous, n'a strictement aucun sens?
Elle n'a rien à voir avec la réalité du racisme. C'est-à-dire que je raconte cet épisode au Cameroun lorsque j'arrive dans un quartier très pauvre, très grand de Douala, à Newbel, et je me fais interpeller comme blanc. Et on me dit « qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens nous voir là ?» On est nous dans notre ghetto, et toi le blanc qui vient des quartiers blancs, qu'est-ce que tu viens faire? Et à ce moment-là, on a le choix de dire, je leur dis, vous êtes des racistes anti-blancs parce que vous m'interpellez, voire vous m'agressez, ou bien je cherche la relation, je cherche à parler. Et c'est un petit peu ça à mon avis, la pure invention, la nouvelle fiction du racisme anti-blanc. Ça n'existe pas parce que le racisme est une naturalisation de la domination. Là, on est dans une situation de résistance. Des gens qui, confinés dans leurs conditions sociales subalternes, confinés dans leur marginalité urbaine, confinés dans toute cette, voilà, cette précarisation, cette vie subalterne, vont dire à des blancs qui sont par là, vont dire « on existe et vous, vous ne valez pas plus que nous ». Est-ce qu'on va dire que ça, c'est du racisme anti-blanc ? Pour moi, ça n'en est pas.
De quoi faut-il parler alors ? Faut-il parler, j'allais dire, peut-être d'intolérance ou, comme disait Albert Memmi, de xénophobie, c'est-à-dire de peur de l'autre ? Ou est-ce qu'il faut forger un nouveau terme ?
Alors, la peur de l'autre, j'ai déjà longuement travaillé, réfléchi sur le sujet dans un ouvrage précédent qui s'appelle précisément « La peur de l'autre ». Et il me semble que... comprendre le racisme, c'est aller un peu plus loin que ce qu'il y a dans la peur de l'autre et dans l'indésirabilité de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel dans ces procédures-là de domination, exclusion, ségrégation, que de prétendre à un ordre naturel du monde. Les noirs, les bruns, les jaunes, les rouges, pour les Amérindiens, on va dire toutes les couleurs qu'on voudra, sont perçus, considérés, jugés comme étant à un niveau naturellement inférieur à ceux des blancs. On le voit quand des gens se trouvent étant noirs dans des positions sociales supérieures, tout le monde est surpris. On met des « mais » partout, « ah, mais » ou « bien que », etc. Comme s'il fallait excuser ou faire un détour pour comprendre que c'est possible. Ou carrément leur dire « ça n'est pas votre place », ce qui existe aussi. Et donc ça, ce rappel quoi, à l'ordre naturel des choses, à un supposé ordre naturel des choses, qui fait que le racisme est d'abord, avant tout, je crois, une affaire politique.
Je voudrais vous faire entendre, Michel Agier, pour changer un peu de registre, d'ailleurs une chanson, vous nous direz ensuite ce que vous en tirez, même comment vous l'analysez. Plaisir, Michel Achillier, qu'on diffuse cette chanson. Alors, je vous laisse aussi le plaisir de nous dire de quoi il s'agit et comment vous l'avez analysé dans vos propres travaux.
Eh bien, le 8 février 75, il y a 50 ans pratiquement, un groupe de jeunes noirs du quartier Liberdade de Salvador à Bahia a créé un groupe de carnaval qu'on appelle Bloco au Brésil. Un petit groupe, une centaine de personnes, et ils ont décidé pour marquer leur initiative, que ce groupe ne serait qu'entre noirs et qu'il n'y aurait pas de blancs dans ce groupe. Et puis ils ont décidé une autre chose qui se voit dans le premier feuillet qu'ils ont diffusé, la première affiche qu'ils ont diffusée, qui était intitulée « Ce sont les Africains à Bahia ». Et donc pour moi, Et la première chanson qu'ils ont chantée, c'est celle qu'on vient d'écouter, que Gilberto Gil a reprise quelques années plus tard, en apportant son soutien à ce groupe, qui est devenu un groupe très important, qui vient de fêter ses 50 ans maintenant au Brésil. C'est une véritable institution culturelle à Bahia, mais aussi dans le reste du pays. Donc, en affirmant « Nous sommes les Africains à Bahia », ce que voulait dire ce groupe, c'était leur propre version d'un mouvement qui existait dans le monde déjà à ce moment-là, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, le mouvement africain de Steve Biko en Afrique du Sud, le reggae en Jamaïque, etc. Tout ça existait et influençait ces jeunes de Salvador. Et ils ont voulu le donner à ce mouvement leur propre mot, leur propre manière brésilienne dans le carnaval, en disant... nous ne sommes pas vos noirs, nous sommes les Africains à Bahia.
Si je tire le fil, Michel Agier, en quoi la performance, puisque c'est justement un dispositif sur lequel vous vous concentrez en particulier, en quoi la performance artistique peut permettre un retournement et une forme aussi de lutte, de combat contre le racisme ?
La performance est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant à étudier pour l'anthropologie, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est la culture en train de se faire, mais c'est aussi le moment où on établit une relation avec des gens qui sont tout proches. Et on crée une situation, Jacques Rancière parle du partage du sensible, on partage à égalité une expérience à ce moment-là où se produit une autre relation et une autre image de soi. Et donc, quand ces jeunes dans le carnaval, avec les gens à côté, les gens qui les entourent, et que tout d'un coup les trouvent merveilleux, extraordinaires, eh bien, on est dans un renversement, d'une certaine façon. Je défends l'idée qu'on est dans une transfiguration de la race. On transforme cette idée-là. Elle n'est pas niée. Le racisme existe, mais quelque chose se transforme. Et dans les phrases de cette chanson que Gilles a repris, il y a cette phrase qui est quand même extraordinaire. Blanc, si tu savais la valeur du noir, tu te peindrais de goudron et tu deviendrais noir toi aussi. Donc tout ça dit dans la gaieté, dans la joie. Et pour moi, c'est ça aussi l'avantage de la performance culturelle, c'est de créer un autre regard et une autre relation.
Racisme et culture, exploration transnationale, ça vient de paraître au Seuil, c'est signé Michel Agier. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du Soir.
Merci à vous.
France Culture.